Les Confessions, livre 4, 1731-1732. J'arrive et je ne la trouve plus. Qu'on juge de ma surprise et de ma douleur. C'est alors que le regret d'avoir lâchement abandonné monsieur le maître commença de se faire sentir. Il fut plus vif encore quand j'appris le malheur qui lui était arrivé. Sa caisse de musique, qui contenait toute sa fortune, cette précieuse caisse, sauvée avec tant de fatigue, avait été saisie en arrivant à Lyon par les soins du comte d'Ortan, à qui le chapitre avait fait écrire pour le prévenir de cet enlèvement furtif. Le maître avait en vain réclamé son bien, son gagne-pain, le travail de toute sa vie. La propriété de cette caisse était tout au moins sujette à litige. Il n'y en eut point. L'affaire fut décidée à l'instant même par la loi du plus fort, et le pauvre le maître perdit ainsi le fruit de ses talents, l'ouvrage de sa jeunesse et la ressource de ses vieux jours. Il ne manqua rien au coup que je reçus pour le rendre accablant. Mais j'étais dans un âge où les grands chagrins ont peu de prise, et je me forgeais bientôt des consolations. Je comptais avoir dans peu des nouvelles de madame de Varens, quoique je ne susse pas son adresse et qu'elle ignorât que j'étais de retour. Et quant à ma désertion, tout bien compté, je ne la trouvais pas si coupable. J'avais été utile à monsieur le maître dans sa retraite, c'était le seul service qui dépendit de moi. Si j'avais resté avec lui en France, je ne l'aurais pas guéri de son mal, je n'aurais pas sauvé sa caisse, je n'aurais fait que doubler sa dépense sans lui pouvoir être bon à rien. Voilà comment, alors, je voyais la chose. Je la vois autrement aujourd'hui. Ce n'est pas quand une vilaine action vient d'être faite qu'elle nous tourmente. C'est quand, longtemps après, on se la rappelle, car le souvenir ne s'en éteint point. Le seul parti que j'avais à prendre pour avoir des nouvelles de maman était d'en attendre. Car où l'aller chercher à Paris et avec quoi faire le voyage? Il n'y avait point de lieu plus sûr qu'Annecy pour savoir tôt ou tard où elle était. J'y restais donc, mais je me conduisis assez mal. Je n'allais point voir l'évêque qui m'avait protégé et qui me pouvait protéger encore. Je n'avais plus ma patronne auprès de lui et je craignais les réprimandes sur notre évasion. J'allais moins encore au séminaire, monsieur Gros n'y était plus. Je ne vis personne de ma connaissance. J'aurais pourtant bien voulu aller voir madame l'intendante, mais je n'osais jamais. Je fis plus mal que tout cela. Je retrouvai monsieur Venture, auquel, malgré mon enthousiasme, je n'avais pas même pensé depuis mon départ. Je le trouvai brillant et fêté dans tout Annecy. Les dames se l'arrachaient. Ce succès acheva de me tourner la tête. Je ne vis plus rien que monsieur Venture, et il me fit presque oublier madame de Varens. Pour profiter de ses leçons plus à mon aise, je lui proposai de partager avec moi son gîte. Il y consentit. Il était logé chez un cordonnier, plaisant et bouffon personnage, qui, dans son patois, n'appelait pas sa femme autrement que Salopière, nom qu'elle méritait assez. Il avait avec elle des prises que Venture avait soin de faire durer en paraissant vouloir faire le contraire. Il leur disait, d'un ton froid et dans son accent provençal, des mots qui faisaient le plus grand effet. C'étaient des scènes à pâmer de rire. Les matinées se passaient ainsi, sans qu'on y songeât. À 2 ou 3 heures, nous mangeions un morceau. Venture s'en allait dans ses sociétés, où il soupait, et moi, j'allais me promener seul, méditant sur son grand mérite, admirant, convoitant ses rares talents, et maudissant ma malheureuse étoile qui ne m'appelait point à cette heureuse vie. Et que je m'y connaissais mal. La mienne eût été 100 fois plus charmante si j'avais été moins bête, et si j'en avais su mieux jouir. » Madame de Varens n'avait emmené qu'Annet avec elle. Elle avait laissé Merceret, sa femme de chambre dont j'ai parlé. Je la trouvais occupant encore l'appartement de sa maîtresse. Mademoiselle Merceret était une fille un peu plus âgée que moi, non pas jolie, mais assez agréable. Une bonne fribourgeoise sans malice, et à qui je n'ai connu d'autre défaut que d'être quelquefois un peu mutine avec sa maîtresse. Je l'allais voir assez souvent. C'était une ancienne connaissance, et sa vue m'en rappelait une plus chère, qui me la faisait aimer. Elle avait plusieurs amies, entre autres une mademoiselle Giraud, genevoise, qui, pour mes péchés, s'avisa de prendre du goût pour moi. Elle pressait toujours Merceret de m'amener chez elle. Je m'y laissais mener parce que j'aimais assez Merceret et qu'il y avait là d'autres jeunes personnes que je voyais volontiers. Pour mademoiselle Giraud, qui me faisait toutes sortes d'agaceries, on ne peut rien ajouter à l'aversion que j'avais pour elle. Quand elle approchait de mon visage son museau sec et noir, barbouillé de tabac d'Espagne, j'avais peine à m'abstenir d'y cracher. Mais je prenais patience. À cela près, je me plaisais fort au milieu de toutes ces filles, et soit pour faire leur cour à mademoiselle Giraud, soit pour moi-même, toutes me fêtaient à l'envie. Je ne voyais à tout cela que de l'amitié. J'ai pensé depuis qu'il n'eût tenu qu'à moi d'y voir davantage. Mais je ne m'en avisais pas, je n'y pensais pas. D'ailleurs, des couturières, des filles de chambre, de petites marchandes ne me tentaient guère. Il me fallait des demoiselles. Chacun a ses fantaisies, ça a toujours été la mienne. Et je ne pense pas comme Horace sur ce point-là. Ce n'est pourtant pas du tout la vanité de l'état et du rang qui m'attire. C'est un teint mieux conservé, de plus belles mains, une parure plus gracieuse, un air de délicatesse et de propreté sur toute la personne, plus de goût dans la manière de se mettre et de s'exprimer, une robe plus fine et mieux faite, une chaussure plus mignonne, des rubans, de la dentelle, des cheveux mieux ajustés. Je préférerais toujours la moins jolie, ayant plus de tout cela. Je trouve moi-même cette préférence très ridicule, mais mon cœur la donne malgré moi. Eh bien, cet avantage se présentait encore, et il ne tint encore qu'à moi d'en profiter. Que j'aime à tomber de temps en temps sur les moments agréables de ma jeunesse. Ils m'étaient si doux. Ils ont été si courts, si rares, et je les ai goûtés à si bon marché. Ah, leur seul souvenir rend encore à mon cœur une volupté pure, dont j'ai besoin pour animer mon courage et soutenir les ennuis du reste de mes ans. L'aurore, un matin, me parut si belle que, m'étant habillée précipitamment, je me hâtai de gagner la campagne pour voir lever le soleil. Je goûtais ce plaisir dans tout son charme. C'était la semaine après la Saint-Jean. La terre, dans sa plus grande parure, était couverte d'herbes et de fleurs. Les rossignols, presque à la fin de leur ramage, semblaient se plaire à le renforcer. Tous les oiseaux, faisant en concert leurs adieux au printemps, chantaient la naissance d'un beau jour d'été, d'un de ces jours qu'on ne voit plus à mon âge et qu'on n'a jamais vu dans le triste sol que j'habite aujourd'hui. Je m'étais insensiblement éloigné de la ville. La chaleur augmentait, et je me promenais sous des ombrages, dans un vallon le long d'un ruisseau. J'entends derrière moi des pas de chevaux et des voix de filles, qui semblaient embarrassées, mais qui n'en riaient pas de moins bon cœur. Je me retourne, on m'appelle par mon nom, j'approche. Je trouve deux jeunes personnes de ma connaissance, mademoiselle de Graffenried et mademoiselle Gallet, qui, n'étant pas d'excellentes cavalières, ne savaient comment forcer leurs chevaux à passer le ruisseau. mademoiselle de Graffenried était une jeune bernoise fort aimable, qui, par quelque folie de son âge, ayant été jetée hors de son pays, avait imité madame de Varens, chez qui je l'avais vue quelquefois. Mais n'ayant pas eu une pension comme elle, elle avait été trop heureuse de s'attacher à mademoiselle Gallet, qui, l'ayant prise en amitié, avait engagé sa mère à la lui donner pour compagne jusqu'à ce qu'on la pût placer de quelque façon. Mademoiselle Gallet, d'un an plus jeune qu'elle, était encore plus jolie. Elle avait je ne sais quoi de plus délicat, de plus fin. Elle était en même temps très mignonne et très formée, ce qui est pour une fille le plus beau moment. Toutes deux s'aimaient tendrement, et leur bon caractère, à l'une et à l'autre, ne pouvait qu'entretenir longtemps cette union, si quelque amant ne venait pas la déranger. Elles me dirent qu'elles allaient à Thun, vieux château appartenant à madame Gallet. Elles implorèrent mon secours pour faire passer leurs chevaux, n'en pouvant venir à bout elles seules. Je voulus fouetter les chevaux, mais elles craignaient pour moi les ruades et pour elles les haut-le-corps. J'eus recours à un autre expédient. Je pris par la bride le cheval de mademoiselle Gallet, puis, le tirant après moi, je traversai le ruisseau, ayant de l'eau jusqu'à mi-jambe, et l'autre cheval suivit sans difficulté. Cela fait, je voulus saluer ces demoiselles et m'en aller comme un benêt. Elles se dirent quelques mots tout bas, et mademoiselle de Graffenried, s'adressant à moi, « Non pas, non pas !» me dit-elle. « On ne nous échappe pas comme cela. Vous vous êtes mouillé pour notre service, et nous devons en conscience avoir soin de vous sécher. Il faut, s'il vous plaît, venir avec nous. Nous vous arrêtons prisonniers. » Le cœur me battait. Je regardais mademoiselle Gallet. « Oui, oui !» ajouta-t-elle en riant de ma mine effrayée. « Prisonnier de guerre, montez en croupe derrière elle. Nous voulons rendre compte de vous. » « Mais, mademoiselle, je n'ai point l'honneur d'être connue de madame votre mère. Que dira-t-elle en me voyant arriver ?»« Sa mère, reprit mademoiselle de Graffenried, n'est pas à Thun. Nous sommes seuls. Nous revenons ce soir, et vous reviendrez avec nous. » L'effet de l'électricité n'est pas plus prompt que celui que ces mots firent sur moi. En m'élançant sur le cheval de mademoiselle de Graffenried, je tremblais de joie. Et quand il fallut l'embrasser pour me tenir, le cœur me battait si fort qu'elle s'en aperçut. Elle me dit que le sien lui battait aussi, par la frayeur de tomber. C'était presque dans ma posture une invitation de vérifier la chose. Je n'osais jamais, et durant tout le trajet, mes deux bras lui servirent de ceinture. Très serré à la vérité, mais sans se déplacer un moment. Telle femme qui lira ceci me soufflait très volontiers et n'aurait pas tort. La gaieté du voyage et le babil de ses filles aiguisèrent tellement le mien que jusqu'au soir et tant que nous fûmes ensemble, nous ne déparlâmes pas un moment. Elle m'avait mis si bien à mon aise que ma langue parlait autant que mes yeux. Quoiqu'elle ne dit pas les mêmes choses. Quelques instants seulement, quand je me trouvais tête à tête avec l'une ou l'autre, l'entretien s'embarrassait un peu. Mais l'absente revenait vite et ne nous laissait pas le temps d'éclaircir cet embarras. Arrivés à Thun, et moi bien séché, nous déjeunâmes. Ensuite, il fallut procéder à l'importante affaire de préparer le dîner. Les deux demoiselles, tout en cuisinant, baisait de temps en temps les enfants de la grangère, et le pauvre marmiton regardait faire en rongeant son frein. On avait envoyé des provisions de la ville, et il y avait de quoi faire un très bon dîner, surtout en friandises. Mais malheureusement, on avait oublié du vin. Cet oubli n'était pas étonnant pour des filles qui n'en buvaient guère, mais j'en fus fâchée, car j'avais un peu compté sur ce secours pour m'enhardir. Elles en furent fâchées aussi, par la même raison peut-être. Mais je n'en crois rien. Leur gaieté vive et charmante était l'innocence même. Et d'ailleurs, qu'eussent-elles fait de moi entre elles deux? Elles envoyèrent chercher du vin partout aux environs. On n'en trouva point, tant les paysans de ce canton sont sobres et pauvres. Comme elles m'en marquaient leur chagrin, je leur dis de n'en pas être si fort en peine et qu'elles n'avaient pas besoin de vin pour m'enivrer. Ce fut la seule galanterie que j'osai leur dire de la journée. Mais je crois que les friponnes voyaient de reste que cette galanterie était une vérité. Nous dînâmes dans la cuisine de la grangère. Les deux amies assises sur des bancs aux deux côtés de la longue table, et leur hôte entre elles deux sur une escabelle à trois pieds. Quel dîner! Quel souvenir plein de charme! Comment, pouvant à si peu de frais goûter des plaisirs si purs et si vrais, vouloir en rechercher d'autres? Jamais souper des petites maisons de Paris n'approcha de ce repas. Je ne dis pas seulement pour la gaieté, pour la douce joie, mais je dis pour la sensualité. Après le dîner, nous fîmes une économie. Au lieu de prendre le café qui nous restait du déjeuner, nous le gardâmes pour le goûter avec de la crème et des gâteaux qu'elles avaient apportés. Et pour tenir notre appétit en haleine, nous allâmes dans le verger achever notre dessert avec des cerises. Je montai sur l'arbre et je leur en jetai des bouquets dont elles me rendaient les noyaux à travers les branches. Une fois, Mademoiselle Galet, avançant son tablier et reculant la tête, se présentait si bien et je visais si juste que je lui fis tomber un bouquet dans le sein. Et de rire, je me disais en moi-même « Que mes lèvres ne sont-elles des cerises, comme je les leur jetterais ainsi de bon cœur !» La journée se passa de cette sorte, affolâtrée avec la plus grande liberté, et toujours avec la plus grande décence. Pas un seul mot équivoque, pas une seule plaisanterie hasardée. Et cette décence, nous ne nous l'imposions point du tout. Elle venait toute seule, nous prenions le ton que nous donnaient nos cœurs. Enfin, ma modestie, d'autres diront ma sottise, fut telle que la plus grande privauté qui m'échappa fut de baiser une seule fois la main de Mademoiselle Galet. Il est vrai que la circonstance donnait du prix à cette légère faveur. Nous étions seuls, je respirais avec embarras, elle avait les yeux baissés. Ma bouche, au lieu de trouver des paroles, s'avisa de se coller sur sa main, qu'elle retira doucement après qu'elle fut baisée, en me regardant d'un air qui n'était point irrité. Je ne sais ce que j'aurais pu lui dire. Son amie entra et me parut laide en ce moment. Enfin, elles se souvinrent qu'il ne fallait pas attendre la nuit pour rentrer en ville. Il ne nous restait que le temps qu'il fallait pour y arriver de jour, et nous nous hâtâmes de partir en nous distribuant comme nous étions venus. Si j'avais osé, j'aurais transposé cet ordre, car le regard de Mademoiselle Galet m'avait vivement ému le cœur. Mais je n'osais rien dire, et ce n'était pas à elle de le proposer. En marchant, nous disions que la journée avait tort de finir, mais loin de nous plaindre qu'elle eût été courte, nous trouvâmes que nous avions eu le secret de la faire longue par tous les amusements dont nous avions su la remplir. Je les quittai à peu près au même endroit où elle m'avait pris. Avec quel regret nous nous séparâmes, avec quel plaisir nous projetâmes de nous revoir. 12 heures passées ensemble nous valaient des siècles de familiarité. Le doux souvenir de cette journée ne coûtait rien à ces aimables filles. La tendre union qui régnait entre nous trois valait des plaisirs plus vifs et n'eût pu subsister avec eux. Nous nous aimions sans mystère et sans honte, et nous voulions nous aimer toujours ainsi. L'innocence des mœurs a sa volupté, qui vaut bien l'autre, parce qu'elle n'a point d'intervalle et qu'elle agit continuellement. Pour moi, je sais que la mémoire d'un si beau jour me touche plus, me charme plus, me revient plus au cœur que celle d'aucun plaisir que j'ai goûté sans ma vie. Je ne savais pas trop ce que je voulais à ces deux charmantes personnes, mais elles m'intéressaient beaucoup toutes deux. Je ne dis pas que, si j'eusse été le maître de mes arrangements, mon cœur se serait partagé. J'y sentais un peu de préférence. J'aurais fait mon bonheur d'avoir pour maîtresse Mademoiselle de Graffenried. Mais à mon choix, je crois que je l'aurais mieux aimée pour confidente. Quoi qu'il en soit, il me semblait, en les quittant, que je ne pouvais plus vivre sans l'une et sans l'autre. Qui m'eût dit que je ne les reverrais de ma vie, et que là finiraient nos éphémères amours. Ceux qui liront ceci ne manqueront pas de rire de mes aventures galantes, en remarquant qu'après beaucoup de préliminaires, les plus avancés finissent par baiser la main. Oh, mes lecteurs, ne vous y trompez pas. J'ai peut-être eu plus de plaisir dans mes amours en finissant par cette main baisée que vous n'en aurez jamais dans les vôtres en commençant tout au moins par là. Venture, qui s'était couché fort tard la veille, rentra peu de temps après moi. Pour cette fois, je ne le vis pas avec le même plaisir qu'à l'ordinaire, et je me gardai de lui dire comment j'avais passé ma journée. Ces demoiselles m'avaient parlé de lui avec peu d'estime, et m'avaient paru mécontentes de me savoir en si mauvaise main. Cela lui fit tort dans mon esprit. D'ailleurs, tout ce qui me distrayait d'elle ne pouvait que m'être désagréable. Cependant, il me rappela bientôt à lui et à moi en me parlant de ma situation. Elle était trop critique pour pouvoir durer. Quoique je dépensasse très peu de choses, mon petit pécule achevait de s'épuiser. J'étais sans ressources. Point de nouvelles de maman, je ne savais que devenir, et je sentais un cruel serrement de cœur de voir l'ami de Mademoiselle Gallet réduite à l'aumône. Venture me dit qu'il avait parlé de moi à monsieur le juge Mage, qu'il voulait m'y mener dîner le lendemain, que c'était un homme en état de me rendre service par ses amis. D'ailleurs, une bonne connaissance à faire, un homme d'esprit et de lettres, d'un commerce fort agréable, qui avait des talents et qui les aimait. Puis, mêlant à son ordinaire aux choses les plus sérieuses la plus mince frivolité, il me fit voir un joli couplet venu de Paris sur un air d'un opéra de Mouret qu'on jouait alors. Ce couplet avait plu si fort à M. Simon, c'était le nom du juge Mage, qu'il voulait en faire un autre en réponse sur le même air. Il avait dit à Venture d'en faire aussi un, et la folie prit à celui-ci de m'en faire faire un troisième, afin, disait-il, qu'on vît les couplets arriver le lendemain comme les brancards du roman comique. La nuit, ne pouvant dormir, je fis comme je pus mon couplet. Pour les premiers vers que j'eusse faits, ils étaient passables, meilleurs même, ou du moins faits avec plus de goût qu'il n'aurait été la veille, le sujet roulant sur une situation fort tendre à laquelle mon cœur était déjà tout disposé. Je montrai le matin mon couplet à Venture, qui, le trouvant joli, le mit dans sa poche sans me dire s'il avait fait le sien. Nous allâmes chez M. Simon, qui nous reçut bien. La conversation fut agréable, elle ne pouvait manquer de l'être entre deux hommes d'esprit, à qui la lecture avait profité. Pour moi, je faisais mon rôle, j'écoutais et je me taisais. Ils ne parlèrent de couplet ni l'un ni l'autre. Je n'en parlais point non plus, et jamais, que je sache, il n'a été question du mien. Monsieur Simon parut content de mon maintien. C'est à peu près tout ce qu'il vit de moi dans cette entrevue. Il m'avait déjà vu plusieurs fois chez Madame de Varens, sans faire une grande attention à moi. Ainsi, c'est depuis ce dîner que je puis dater sa connaissance, qui ne me servit de rien pour l'objet qui me l'avait fait faire, mais dont je tirai dans la suite d'autres avantages qui me font rappeler sa mémoire avec plaisir. J'aurais tort de ne pas parler de sa figure, que, sur sa qualité de magistrat et sur le bel esprit dont il se piquait, on n'imaginerait pas si je n'en disais rien. Monsieur le juge Mage Simon n'avait assurément pas deux pieds de haut. Ses jambes, droites, menues et même assez longues, l'auraient agrandi si elles eussent été verticales. Mais elles posaient de biais comme celles d'un compas très ouvert. Son corps était non seulement court, mais mince, et en tout sens d'une petitesse inconcevable. Il devait paraître une sauterelle quand il était nu. Sa tête, de grandeur naturelle, avec un visage bien formé, l'air noble, d'assez beaux yeux, semblait une tête postiche qu'on aurait plantée sur un moignon. Il eût pu s'exempter de faire de la dépense en parure, car sa grande perruque seule l'habillait parfaitement de pied en cap. Il avait deux voix, toutes différentes, qui s'entremêlaient sans cesse dans sa conversation, avec un contraste d'abord très plaisant, mais bientôt très désagréable. L'une était grave et sonore, c'était, si j'ose ainsi parler, la voix de sa tête. L'autre, claire, aiguë et perçante, était la voix de son corps. Quand il s'écoutait beaucoup, qu'il parlait très posément, qu'il ménageait son haleine, il pouvait parler toujours de sa grosse voix. Mais pour peu qu'il s'animât et qu'un accent plus vif vint se présenter, cet accent devenait comme le sifflement d'une clé, et il avait toute la peine du monde à reprendre sa basse. Avec la figure que je viens de peindre, et qui n'est point chargée, M. Simon était galant, grand conteur de fleurettes, et poussait jusqu'à la coquetterie le soin de son ajustement. Comme il cherchait à prendre ses avantages, il donnait volontiers ses audiences du matin dans son lit. Car quand on voyait sur l'oreiller une belle tête, personne n'allait s'imaginer que c'était là tout. Cela donnait lieu quelquefois à des scènes dont je suis sûre que tout Annecy se souvient encore. Un matin, qu'il attendait dans ce lit, ou plutôt sur ce lit, les plaideurs, en belles coiffes de nuit bien fines et bien blanches, ornées de deux grosses bouffettes de rubans couleur de rose, un paysan arrive, heurte à sa porte. La servante était sortie. Monsieur le juge Mage, entendant redoubler, crie « Entrez !» Et cela, comme dit un peu trop fort, partit de sa voix aiguë. L'homme entre, il cherche d'où vient cette voix de femme, et voyant dans ce lit une cornette, une fontange, il veut ressortir en faisant à madame de grandes excuses. Monsieur Simon se fâche et n'en crie que plus clair. Le paysan, confirmé dans son idée et se croyant insulté, lui chante « Pouille !» lui dit qu'apparemment elle n'est qu'une coureuse et que monsieur le juge Mage ne donne guère bon exemple chez lui. Le juge Mage, furieux et n'ayant pour toute arme que son pot de chambre, allait le jeter à la tête de ce pauvre homme quand sa gouvernante arriva. Ce petit nain, si disgracié dans son corps par la nature, en avait été dédommagé du côté de l'esprit. Il l'avait naturellement agréable, et il avait pris soin de l'orner. Quoiqu'il fût, à ce qu'on disait à ses bons jurisconsultes, il n'aimait pas son métier. Il s'était jeté dans la belle littérature, et il y avait réussi. Il en avait pris surtout cette brillante superficie, cette fleur qui jette de l'agrément dans le commerce, même avec les femmes. Il savait par cœur tous les petits traits des annas et autres semblables. Il avait l'art de les faire valoir, en comptant avec intérêt, avec mystère, et comme une anecdote de la veille, ce qui s'était passé il y avait 60 ans. Il savait la musique et chantait agréablement de sa voix d'homme. Enfin, il avait beaucoup de jolis talents pour un magistrat. À force de cajoler les dames d'Annecy, il s'était mis à la mode parmi elles. Elles l'avaient à leur suite comme un petit sapajou. Il prétendait même à de bonnes fortunes, et cela les amusait beaucoup. Une madame d'Épagny disait que pour lui, la dernière faveur était de baiser une femme au genou. Comme il connaissait les bons livres et qu'il en parlait volontiers, Sa conversation était non seulement amusante, mais instructive. Dans la suite, lorsque j'eus pris du goût pour l'étude, je cultivai sa connaissance et je m'en trouvais très bien. J'allais quelquefois le voir de Chambéry, où j'étais alors, il louait, animait mon émulation, et me donnait pour mes lectures de bons avis, dont j'ai souvent fait mon profit. Malheureusement, dans ce corps si fluet, logeait une âme très sensible. Quelques années après, il eut je ne sais quelle mauvaise affaire qui le chagrina, et il en mourut. Ce fut dommage. C'était assurément un bon petit homme, dont on commençait par rire et qu'on finissait par aimer. Quoique sa vie ait été peu liée à la mienne, comme j'ai reçu de lui des leçons utiles, j'ai cru pouvoir, par reconnaissance, lui consacrer un petit souvenir. Sitôt que je fus libre, je courus dans la rue de Mademoiselle Gallet, me flattant de voir entrer ou sortir quelqu'un, ou du moins ouvrir quelques fenêtres. Rien, pas un chat ne parut, et tout le temps que je fus là, la maison demeura aussi close que si elle n'eût point été habitée. La rue était petite et déserte, un homme s'y remarquait. De temps en temps, quelqu'un passait, entrait ou sortait au voisinage. J'étais fort embarrassée de ma figure. Il me semblait qu'on devinait pourquoi j'étais là. Et cette idée me mettait au supplice, car j'ai toujours préféré à mes plaisirs l'honneur et le repos de celle qui m'était chère. Enfin, las de faire l'amant espagnol et n'ayant point de guitare, je pris le parti d'aller écrire à Mademoiselle de Graffenried. J'aurais préféré l'écrire à son ami, mais je n'osais, et il convenait de commencer par celle à qui je devais la connaissance de l'autre, et avec qui j'étais plus familier. Ma lettre faite, j'allai la porter à Mademoiselle Giraud, comme j'en étais convenu avec ces demoiselles en nous séparant. Ce furent elles qui me donnèrent cet expédient. Mademoiselle Giraud était contrepointière et, travaillant quelquefois chez Madame Gallet, elle avait l'entrée de sa maison. La messagère ne me parut pourtant pas trop bien choisie, mais j'avais peur, si je faisais des difficultés sur celle-là, qu'on ne m'en proposât point d'autre. De plus, je n'osais dire qu'elle voulait travailler pour son compte. Je me sentais humiliée qu'elle osât se croire pour moi du même sexe que ces demoiselles. Enfin, j'aimais mieux cet entrepôt-là que point, et je m'y tins à tout risque. Au premier mot, la Giraud me devina. Cela n'était pas difficile. Quand une lettre apportée à deux jeunes filles n'aurait pas parlé d'elle-même, mon air sot et embarrassé m'aurait seul décelé. On peut croire que cette commission ne lui donna pas grand plaisir à faire. Elle s'en chargea toutefois et l'exécuta fidèlement. Le lendemain matin, je courus chez elle et j'y trouvai ma réponse. Comme je me pressais de sortir pour l'aller lire et baiser à mon aise. Cela n'a pas besoin d'être dit. Mais ce qui en a besoin davantage, c'est le parti que prit Mademoiselle Giraud, et où j'ai trouvé plus de délicatesse et de modération que je n'en aurais attendu d'elle. Ayant assez de bon sens pour voir qu'avec ses 37 ans, ses yeux de lièvre, son nez barbouillé, sa voix aigre et sa peau noire, elle n'avait pas beau jeu contre deux jeunes personnes pleines de grâce et dans tout l'éclat de la beauté. Elle ne voulut ni les trahir ni les servir, et aima mieux me perdre que de me ménager pour elle. Il y avait déjà quelque temps que la mère Seret, n'ayant aucune nouvelle de sa maîtresse, songeait à s'en retourner à Fribourg. Elle l'y détermina tout à fait. Elle fit plus. Elle lui fit entendre qu'il serait bien que quelqu'un la conduisît chez son père et me proposa. La petite mère Seret, à qui je ne déplaisais pas non plus, trouva cette idée fort bonne à exécuter. Elles m'en parlèrent dès le même jour comme d'une affaire arrangée. Et comme je ne trouvais rien qui me déplût dans cette manière de disposer de moi, j'y consentis, regardant ce voyage comme une affaire de 8 jours tout au plus. La Giraud, qui ne pensait pas de même, arrangea tout. Il fallut bien avouer l'état de mes finances, on y pourvut. La Merceret se chargea de me défrayer. Et pour regagner d'un côté ce qu'elle dépensait de l'autre, à ma prière, on décida qu'elle enverrait devant son petit bagage et que nous irions à pied, à petite journée. Ainsi fut fait. Je suis fâchée de faire tant de filles amoureuses de moi, mais comme il n'y a pas de quoi être bien vain du parti que j'ai tiré de toutes ces amours-là, je crois pouvoir dire la vérité sans scrupule. La Merceret, plus jeune et moins déniaisée que la Giraud, ne m'a jamais fait des agaceries aussi vives. Mais elle imitait mes tons, mes accents, redisait mes mots, avait pour moi les attentions que j'aurais dû avoir pour elle, et prenait toujours grand soin, comme elle était fort peureuse, que nous couchassions dans la même chambre. Identité qui se borne rarement là dans un voyage entre un garçon de 20 ans et une fille de 25. Elle s'y borna pourtant cette fois. Ma simplicité fut telle que, quoique la Merceret ne fût pas désagréable, il ne me vint pas même à l'esprit durant tout le voyage. Je ne dis pas la moindre tentation galante, mais même la moindre idée qui s'y rapporta. Et quand cette idée me serait venue, j'étais trop sot pour en savoir profiter. Je n'imaginais pas comment une fille et un garçon parvenaient à coucher ensemble. Je croyais qu'il fallait des siècles pour préparer ce terrible arrangement. Si la pauvre Merceret, en me défrayant, comptait sur quelque équivalent, elle en fut la dupe. Et nous arrivâmes à Fribourg exactement comme nous étions partis d'Annecy. En passant à Genève, je n'allais voir personne. Mais je fus prêt à me trouver mal sur les ponts. Jamais je n'ai vu les murs de cette heureuse ville, jamais je n'y suis entré sans sentir une certaine défaillance de cœur qui venait d'un excès d'attendrissement. En même temps que la noble image de la liberté m'élevait l'âme, celle de l'égalité, de l'union, de la douceur des mœurs, me touchait jusqu'aux larmes et m'inspirait un vif regret d'avoir perdu tous ces biens. Dans quelle erreur j'étais! Mais quelle était naturelle! Je croyais voir tout cela dans ma patrie, parce que je le portais dans mon cœur. Il fallait passer à Nyon. Passer sans voir mon bon père. Si j'avais eu ce courage, j'en serais mort de regret. Je laissai la Merceret à l'auberge, et je l'allai voir à tout risque. Et que j'avais tort de le craindre. Son âme, à mon abord, s'ouvrit au sentiment paternel dont elle était pleine. Que de pleurs nous versâmes en nous embrassant. Il crut d'abord que je revenais à lui. Je lui fis mon histoire et je lui dis ma résolution. Il la combattit faiblement. Il me dit voir les dangers auxquels je m'exposais, me dit que les plus courtes folies étaient les meilleures. Du reste, il n'eut pas même la tentation de me retenir de force. Et en cela, je trouve qu'il eut raison. Mais il est certain qu'il ne fit pas, pour me ramener, tout ce qu'il aurait pu faire, soit qu'après le pas que j'avais fait, il jugea lui-même que je n'en devais pas revenir, soit qu'il fût embarrassé peut-être à savoir ce qu'à mon âge il pourrait faire de moi. J'ai su depuis qu'il eut de ma compagne de voyage une opinion bien injuste et bien éloignée de la vérité, mais du reste, assez naturel. Ma belle-mère, bonne femme, un peu mielleuse, fit semblant de vouloir me retenir à souper. Je ne restai point, mais je leur dis que je comptais m'arrêter avec eux plus longtemps au retour, et je leur laissai en dépôt mon petit paquet que j'avais fait venir par le bateau et dont j'étais embarrassée. Le lendemain, je partis de bon matin, bien content d'avoir vu mon père et d'avoir osé faire mon devoir.